Littoraux poétiques. Littoraux poétiques, l'émission où la terre et la mer s'entremêlent. Partez à la rencontre d'un chercheur ou d'une chercheuse au travers d'une œuvre. Épisode 4, autour de 20 000 lieues sous les mers, avec Hélène Artaud.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour Hélène. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la réalisation du quatrième épisode de notre série Littoraux poétiques. Littoraux poétiques, c'est le podcast du groupe de travail Poète, post-littoralisation et transition environnementale du GDR Océan et Mer, coordonné par le CNRS. Je suis Catherine Boyemard, socio-économiste au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Je m'entretiens aujourd'hui avec Hélène Artaud autour de l'œuvre de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, paru en 1870. Alors, c'est un roman célèbre qu'on n'a pas besoin d'introduire. Il est plutôt rangé sur les étagères de nombreuses bibliothèques. Que pourrait-on dire qui n'ait pas déjà été dit ? Eh bien, je suis sûre que malgré sa célébrité, nous allons faire un voyage inédit en ta compagnie aujourd'hui, Hélène. Donc Hélène, tu es anthropologue au sein de l'UNIT PALOC, enseignante chercheuse au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, comme l'un des protagonistes du roman. Nous allons parler de ce roman, 20 000 lieues sous les mers, mais avant ça, j'aimerais faire un petit détour et te poser une question un peu plus personnelle. Tu travailles aujourd'hui en anthropologie de la mer, mais comment es-tu venue à la mer ?
Bonjour Catherine, merci. J'ai toujours eu l'océan pour horizon. J'ai eu la chance de faire mes premiers pas dans le sable au Maroc et de les poursuivre après un très frileux passage dans le Cotentin sur la plage de la baie de Saint-Paul à l'île de la Réunion. Et mon père, il vivait sur un bateau. Il quittait rarement le port, mais pourtant j'ai eu l'impression de vivre à bord de ce petit voilier des épopées inoubliables, qui tenait beaucoup au récit que m'en faisait mon père, qu'il tenait lui-même d'autres, de Homer, de Melville, de Conrad, de Stevenson. Et par son intermédiaire notamment, j'ai immédiatement compris l'océan comme un récit qui voisinait à La Réunion avec mille autres, ceux de communautés issues de mondes variés, Afrique de l'Est, Inde, Chine, Madagascar. Des communautés que réunissaient finalement deux choses, le fait de vivre dans une île, donc l'insularité, et le fait d'avoir dû pour cela traverser l'océan, puisque cette île n'était pas peuplée avant la fin du XVIIe siècle. Et chacune de ces communautés portait une histoire océanique, Kaf, Tamoul, Zarab, Sinois, Zoreille. Il n'y avait pas un océan, mais une pluralité de mémoires océaniques qui cohabitaient sans nécessairement se connaître et se reconnaître.
Nous allons lire un premier extrait que tu as choisi. Si on résume l'intrigue pour les auditeurs, l'intrigue donc de 20 000 lieues sous les mers, un cétacé géant responsable de plusieurs naufrages sème la terreur sous les océans. Une frégate américaine se lance à sa poursuite. À son bord, Pierre Aronnax, professeur au muséum, est chargé d'identifier le monstre. Lors d'un affrontement avec ce même monstre, trois marins, dont le professeur Aronnax, tombent à la mer et se retrouve sur le dos du Nautilus. Recueilli à bord, le professeur Aronnax découvre la fantastique bibliothèque du capitaine Nemo. Écoutons.
C'était une bibliothèque. De hauts meubles en palissandre noir.
De hauts meubles en palissandre noir incrustés de cuivre supportaient sur leurs larges rayons un grand nombre de livres uniformément reliés. Ils suivaient le contour de la salle et se terminaient à leur partie inférieure par de vastes divans capitonnés de cuir marron qui offraient les courbes les plus confortables. Parmi ces ouvrages, je remarquais les chefs-d'œuvre des maîtres anciens et modernes. C'est-à-dire tout ce que l'humanité a produit de plus beau dans l'histoire, la poésie, le roman et la science. Depuis Homère jusqu'à Victor Hugo, depuis Xénophon jusqu'à Michelet, depuis Rabelais jusqu'à Madame Sand.
Alors, ce passage de la découverte de la bibliothèque, en quoi répond-il aux souvenirs d'enfance que tu évoquais à l'instant ?
J'ai un souvenir précis que j'avais oublié, mais qui m'est revenu des années plus tard sur mon terrain en Mauritanie. Lorsqu'à La Réunion, on annonçait des cyclones, l'école fermait. Et il m'arrivait souvent à cette occasion de passer quelques jours sur le bateau de papa. Et quand les vents devenaient trop intenses pour rester sur le pont, on se barricadait dans la cabine. Et là, je me le rappelle avec précision, une image m'a frappée. Je ne pouvais pas voir la mer par le hublot sans tomber d'abord sur un rempart de livres. Et ces livres semblaient faire obstacle à l'océan en même temps que le supporter et le faire apparaître. Et cette image m'est revenue quelques années plus tard, lorsque, donc sur le terrain en Mauritanie, il m'arrivait spontanément de projeter sur la mer des couleurs, des affects, un regard qui n'avait rien à voir avec celui de mes compagnons pêcheurs Imragan. Et ces situations d'inconfort ou de malentendu m'ont amené à réfléchir à une chose que je n'avais pas de prime abord réalisée, tant à la différence du continent sur lequel l'anthropologie sociale a fait affleurer tant de contrastes culturels, l'océan semblait devoir générer une pensée et des affects universels. Donc, je n'avais pas du tout réalisé que j'étais moi-même profondément habitée par un océan qui avait voyagé avec moi comme un passager clandestin jusque sur mon terrain et qui orientait mon regard, mes questionnements, mes affects. Et cet océan donc qui nous habite, j'ai essayé d'en comprendre l'origine et elle m'est apparue évidente à la relecture de ce passage de Jules Verne. Car dans ce texte de la bibliothèque, l'océan apparaît à la faveur des espaces laissés vacants par les livres, par les tableaux de maîtres. L'océan, c'est en quelque sorte quelque chose qui est déduit de cette tradition de récits et d'images. Et c'est exactement ce que j'ai prouvé sur mon terrain. Le fait que mes observations ne pouvaient pas être réellement distinguées de ce passif d'œuvres, de littérature que nous emmenons à notre insu sur le terrain ou aux confins du monde, 20 milieux sous les mers. Et bien sûr, je n'étais pas la seule à faire cette expérience. Bougainville, par exemple, affectionnait tellement le monde gréco-latin qu'on dit que lorsqu'il découvrit Tahiti, cette côte lui donna l'impression d'un amphithéâtre et que les vers de l'Énéide lui ravissaient bien souvent la primeur d'une narration. Et quelques siècles plus tard, on peut aussi prendre autre anthropologue, Malinowski, qui découvrait aussi le Pacifique, puiser à la Méditerranée d'Homère ou de Conrad la matière d'un mot, d'une image, d'une couleur susceptible de décrire cette immensité nouvelle qui s'étendait devant lui. Donc c'est vraiment l'idée que cette solitude supposée à laquelle on se prépare en tant qu'anthropologue, cette solitude des explorateurs, des anthropologues face à la mer, j'ai jamais si absolue qu'elle y paraît. C'est à bien y observer une foule de partenaires invisibles, d'œuvres, de fables, de légendes, d'instruments qui participent à forger à leur insu cet océan qu'ils vont découvrir et à faire que celui-ci finalement n'apparaisse jamais vierge, mais toujours charpenté d'affects, de qualificatifs, d'analogies qui le rendent familier et déchiffrable.
On voit bien l'importance structurante du langage, des images dont nous disposons pour dire l'océan. Alors, que se passe-t-il quand les mots manquent ? Avant que tu ne répondes, on va écouter un deuxième extrait. Donc en fait, ils sont partis explorer une forêt sous-marine et donc le professeur Aronnax remonte et livre ses impressions.
Et maintenant, comment pourrais-je retracer les impressions que m'a laissées cette promenade sous les eaux ? Les mots sont impuissants à raconter de telles merveilles. Quand le pinceau lui-même est inhabile à rendre les effets particuliers à l'élément liquide, comment la plume saurait-elle les reproduire ?
Oui, et c'est tout le paradoxe auquel nous confronte l'océan. Sa nouveauté est parfois tellement absolue qu'on se trouve désarmé pour la dire. Et cette insuffisance du langage, donc que rappelle Verne, bien d'autres après lui l'ont également évoqué. Je pense notamment à William Beebe, qui était l'inventeur dans les années 1930 de la bathysphère, un submersible. Et il disait qu'il faudrait un vocabulaire entièrement nouveau pour pouvoir décrire avec exactitude les dessins et les couleurs du fond de la mer. Et ce déficit de mots pour décrire l'océan dit sans doute quelque chose de plus profond sur notre épistémologie européenne. Quelque chose que les artistes et penseurs insulaires, puis les théoriciens, nombreux maintenant autour des Critical Ocean Studies ou des Humanités Bleues, pointent, le fait que notre pensée soit finalement profondément continentale et que la Terre nous a outillés jusque dans les concepts les plus élémentaires de notre science. La Terre, sa fermeté, son caractère statique, a ruisselé sur la compréhension que nous avons des choses, notamment le souci de les définir dans leur stabilité, leur essence, leur identité, leurs frontières. Et c'est exactement à l'inverse que nous encourage le fait de penser depuis l'océan. Penser depuis l'océan, c'est faire primer sur l'idée statique d'identité, celle de relation, voire de symbiose, sur l'idée de stabilité, celle de mouvement, sur l'idée de frontière, celle de porosité.
Et le capitaine Nemo, comme ses compagnons de route, sont en quelque sorte empêchés par cette lecture continentale.
Ah oui, le capitaine Nemo continentalise beaucoup le fond des mers. Il l'apparente bien souvent à des forêts sous-marines. Il valorise la verticalité de ce monde. Mais ce n'est pas le seul élément, de mon point de vue, qui verrouille ou oriente d'une certaine façon la lecture que le capitaine Nemo fait de l'océan. Il y a une autre dimension que le continentalisme, qui a formé la perspective que j'ai nommée dans mon livre Immersion, la perspective atlantique. Et cet autre élément, c'est le matérialisme.
C'est la raison pour laquelle tu as choisi ce texte ?
Oui, Jules Verne est sans doute par excellence, mais comme bien d'autres auteurs, je pense notamment à Victor Hugo, dépositaire de cette perspective atlantique qui fait que la machine, les médiations technologiques, les instruments de mesure précèdent et structurent l'observation de l'océan. Et c'est absolument manifeste dans le roman de Verne.
Oui, c'est vrai. À ce sujet, écoutons un troisième extrait qui se trouve dans un chapitre qui s'intitule « Tout par l'électricité ».
Monsieur, dit le capitaine Nemo, me montrant les instruments suspendus aux parois de sa chambre.
Voici les appareils exigés par la navigation du Nautilus. Ici, comme dans le salon, je les ai toujours sous les yeux. Et ils m'indiquent ma situation et ma direction exacte au milieu de l'océan. Les uns vous sont connus, tels que le thermomètre qui donne la température intérieure du Nautilus, le baromètre qui pèse le poids de l'air et prédit les changements de temps, l'hygromètre qui marque le degré de sécheresse de l'atmosphère, le storm glass dont le mélange en se décomposant annonce l'arrivée des tempêtes, la boussole qui dirige ma route, le sextant qui par la hauteur du soleil m'apprend ma latitude, les chronomètres qui me permettent de calculer ma longitude, et enfin des lunettes de jour et de nuit qui me servent à scruter tous les points de l'horizon quand le Nautilus est remonté à la surface des flots. Il est un agent obéissant, puissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire, il m'échauffe, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité.
Le professeur Aronnax, à son réveil dans le Nautilus, découvre donc le Nautilus. Et ce qui est frappant, c'est qu'il est fasciné, ébloui, subjugué par la machine, avant de l'être par l'océan lui-même. La médiation, l'engin qui permet de le voir, prend tout de suite le pas sur l'océan lui-même. Et cette façon de penser la mer à travers les machines, de comprendre l'océan par la traduction qu'en donnent les instruments, est ce que j'ai relevé comme étant une constante de la perspective atlantique. L'océanographe Anita Conti en donne des évocations très claires lorsqu'elle montre la façon, je la cite, dont les radars, les sondeurs qui interprètent la ligne de fond, les appareils enregistreurs qui tracent seconde par seconde les reliefs des zones immergées, eh bien, s'interposent continuellement entre l'homme et la mer. Et interpréter les machines requiert un apprentissage, des compétences qui prennent progressivement le dessus sur la lecture immédiate des signes de la mer, l'écoute de la mer elle-même, et rendent finalement ces signes, cette écoute presque anecdotique. Et ce contraste, c'est ce que j'ai distingué dans Immersion par deux notions. La technoesthésie, qui est la nôtre, européens occidentaux à partir de l'époque moderne, et l'écoesthésie, qui apparente des gens issus d'océans très différents, le pilote arabe Ibn Majid, ou le marin micronésien Mao Pialoug, ou l'Imragan de Mauritanie. Et cette écoesthésie consiste à penser l'océan non pas comme ce territoire du vide, du silence, mais comme un espace profondément bavard, bavard de signes vivants qui, mis en relation, permettent de lire l'environnement maritime, de le déchiffrer, de s'y orienter et d'y prendre part. Et ces signes reposent sur des éléments naturels, parfois éphémères, cycliques, mais entre eux interdépendants, qui deviennent, lorsqu'on les met en correspondance, une cartographie sensible, efficace pour s'orienter dans un environnement familier ou inconnu. Et il y a un missionnaire au milieu du XXe siècle, Grimble, qui a beaucoup documenté ces indicateurs naturels en Micronésie. Et il explique la variété justement de ces indicateurs mobilisés par le navigateur en insistant beaucoup sur leur caractère singulier et éphémère. Car dans des environnements connus, le navigateur ne va pas simplement se baser sur des référents génériques, la couleur des eaux, le mouvement de la houle, la morphologie des nuages ou la nature des oiseaux qu'il rencontre pour évaluer la distance qu'il lui reste à parcourir pour atteindre la Terre. Mais il va mobiliser des repères beaucoup plus singuliers qui démontrent que les espèces sont individuellement reconnues et apparentées à des lieux précis. Et par exemple, sur le parcours qui le mène de Pulawat à Eurepiki, le navigateur rencontrera une zone, dit Grimble, qui regroupe un requin brun faisant des mouvements paresseux, une raie avec une tache rouge derrière les yeux, un oiseau solitaire et bruyant. Et donc chacun de ces existants, qui pour un observateur européen moderne ne pouvait pas constituer un repère fiable, parce qu'il jugeait ces indicateurs trop éphémères ou inconstants, mais aussi parce que ce niveau d'individualisation des espèces, le fait de les considérer comme des partenaires plutôt que comme des ressources anonymes, n'était pas envisageable. Eh bien, tous ces éléments, eux, deviennent en contrepartie pour le Micronésien, comme pour le pilote des mers qui était Ibn Majid ou l'Imragan de Mauritanie, un signe fiable sur lequel faire reposer sa reconnaissance des itinéraires. Et donc, pour revenir à ce schisme, à cette rupture entre cette écoesthésie et cette technoesthésie, ce qui a fait que toutes ces correspondances sensibles ont fini par être assourdies, au point qu'on ne peut plus interpréter les signes vivants, la floraison des hibiscus qui indiquerait la migration des cétacés, le vol des sternes blanches qui signale que la côte est à une trentaine de kilomètres, ou la présence du requin paresseux qui annonce l'entrée dans la zone du même nom. Ce qui fait donc que le monde de la mer est finalement devenu, au moderne, ce monde du silence, c'est l'introduction des instruments de mesure au XVIIe siècle. Et c'est ce que Philippe Descola dit de façon très, très significative dans Nature, par De la nature et culture, quand il dit « le microscope et le télescope ont permis d'instaurer un nouveau rapport au monde en circonscrivant certains de ces éléments à l'intérieur d'un cadre perspectif strictement délimité. » Et il dit « désormais muette, inodore et impalpable, la nature s'est vidée de toute vie. »
Alors, cette incorporation des instruments semble d'ailleurs tellement profonde, si on revient à 20 milieux sous les mers, donc cette incorporation tellement profonde chez le capitaine Nemo, que celui qui entend rompre avec toute règle, celui qui est en quête d'une liberté absolue, finalement, il se soumet à ce diktat, en quelque sorte, et cette loi des machines, des instruments.
Oui, et c'est le grand paradoxe de cet homme qui entend rompre avec la civilisation et qui, finalement, en est complètement imprégné et va d'ailleurs amener ce qu'il souhaite quitter aux confins du monde. Car, au fond, le Nautilus, c'est un condensé de notre civilisation européenne et occidentale. La bibliothèque, les collections d'œuvres, l'attrait pour la technologie, la machine, le progrès. Et à ce titre, le livre interroge profondément ce que peut être la liberté et dit beaucoup sur les possibilités que nous avons de nous affranchir.
C'est-à-dire, tu peux nous en dire
dans,
plus ?
Dans le désir qui est celui du capitaine Nemo de rupture avec une humanité qu'il juge corrompue, il me rappelle beaucoup le parcours de grands aventuriers qui ont décidé de partir, alors pas au fond des mers, mais à la surface d'autres océans. Je pense à Alain Gerbaud, par exemple, qui part et le fait notamment, tout comme Nemo, pour prendre ses distances avec une civilisation occidentale qu'il juge décadente. Mais il y a aussi des figures très intéressantes parmi ces aspirants à la liberté, ces hommes des eaux, comme Verne qualifie Nemo. Et bien certains, à force de vivre au contact d'autres histoires de la mer, d'autres récits océaniques, ont fini par rompre avec cette perspective atlantique, matérialiste, à laquelle est soumise, on l'a dit, le capitaine Nemo. Et il y a un navigateur auquel on pense systématiquement, Moitessier par exemple, illustre de façon exemplaire ce renversement. Et il le dit de façon particulièrement lumineuse quand il dit avoir banni la boussole. Parce que, disait-il, se concentrer sur une aiguille aimantée empêche de participer à l'univers réel, visible et invisible où se meut le voilier. Et il insiste, au début personne ne comprenait mon obstination à écarter le compas, ce dieu de l'Occident. Mais en échange, on commença à entendre parler le ciel et la mer.
Aujourd'hui, dans ta recherche, est-ce que ce livre qui contient tellement de choses, est-ce que ce livre continue de t'inspirer ?
Ce livre m'a fait comprendre qu'on ne s'affranchit de rien sans savoir précisément d'où l'on vient. Qu'aucune évasion, qu'aucun exotisme n'est possible tant que l'on n'a pas défini ce qui se loge en nous, ce qui structure de façon souvent invisible notre perception, notre sensibilité, nos questionnements. Et ma démarche en tant qu'anthropologue a donc toujours été aiguillée depuis par cette méthodologie réflexive, cette méthodologie de la réverbération en quelque sorte, qui consiste à comprendre ce qui nous appartient dans ce que l'on croit observer des océans des autres. Et cette enquête réflexive m'a amenée vers des considérations plus historiques et politiques, en cherchant à voir combien ce récit océanique, historiquement et culturellement situé, celui que les missionnaires, les anthropologues, les colonisateurs ont emporté avec eux dans leur trajectoire impérialiste, sans en être nécessairement avertis, eh bien je me suis demandé combien ce récit, cette perspective atlantique, avait pu masquer, invisibiliser, enterrer d'autres perspectives océaniques qui dérogeaient à la leur. Et c'est toutes ces mémoires de la mer, ces perspectives océaniques jusqu'alors inaperçues, invisibilisées, qui commencent à renaître, à émerger. Et elles l'ont fait dans les années 70, à la faveur notamment des indépendances, et le font de façon remarquable aujourd'hui, grâce aux œuvres des artistes insulaires, avec lesquels je travaille, j'ai la chance de travailler à la Cité des Arts de Paris. Voilà, donc la mer est liberté pour certains, la mer a été asservissement pour beaucoup, mais la mer est presque toujours résistance.
Ben voilà une belle perspective, celle d'un nouveau voyage. C'est sur cette idée que va s'achever notre plongée dans le monde extraordinaire de Jules Verne et de l'anthropologie de la mer. Merci Hélène de t'être prêtée à cet exercice, d'avoir partagé ta vision de la recherche, d'avoir ouvert une perspective océanique si poétique et si large. Merci à Bénédicte Barillier et Thomas Debeny de l'EHESS qui ont participé à l'organisation de cette émission, ainsi qu'à toute l'équipe de Transistor, notre radio partenaire. Merci à l'équipe des littoraux poétiques au CNRS. Merci à vous, auditeurs, pour votre écoute et à bien vite pour un nouveau feuilleton des littoraux poétiques.
Vous venez d'écouter Littoraux poétiques, épisode 4, autour de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Une émission réalisée par Transistor avec Catherine Bouémard, ingénieure de recherche au CIRED, et Hélène Artaud, docteur en anthropologie sociale de l'EHESS. Littoropoétique, une émission proposée par le groupe Poète du groupement de recherche Océan et Mer. Avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique, de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et de Transistor. Une émission à réécouter sur Transistor, sur la page podcast de l'EHESS ou sur le site GDR Océan et Mer.